France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
J'avoue que je vois ça un peu de loin. Après, j'irai certainement voter quand même. Mais en soi, ça sera le moins pire et pas le mieux, malheureusement. Je vois, moi, dans mon métier, pour les imports-exports, que les produits bio, par exemple, qu'on n'ait pas les mêmes normes, ça devient une aberration qu'on est en France, on n'ait pas le droit de faire certaines choses, alors qu'à côté, on ait le droit et que ça vienne en France quand même. Donc, c'est assez contradictoire.
J'ai juste écrit sur mon calendrier « voter » et je me soucierai du sujet une semaine avant. Voilà. Mais c'est déjà bien, j'y vais.
Voilà, nous sommes en 2024, après Jésus-Christ. Toute l'Europe attend avec impatience et appétit les élections du mois de juin. Toutes ? Non. Un gros village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'optimisme ambiant. Voilà ce qui ressort du dernier Eurobaromètre, une vaste enquête menée dans chacun des pays de l'Union auprès de 26 000 citoyens. Partout, la part des optimistes quant à l'avenir du projet européen est supérieure à celle des pessimistes. Les premiers sont un peu plus de 60% en moyenne. Partout, sauf en France, le seul État membre où la morosité l'emporte sur la confiance. 52% de nos compatriotes se disent pessimistes à propos de l'Union européenne, contre 42% seulement qui affirment le contraire. Alors cette neurasthénie bleu-blanc-rouge n'est pas un scoop en soi. Depuis quelque temps, la France occupe les premières places des pays qui ont le moins confiance en l'avenir. Néanmoins, être à ce point à contre-courant par rapport à nos partenaires européens, voilà qui interroge. Les Français sont par exemple plus nombreux que la moyenne à penser que le rôle de l'Europe est devenu moins important ces dernières années, alors que le contexte international, on le voit chaque semaine, oblige l'Union à se projeter en tant que puissance. Ils ne sont que 27% à avoir une image positive du Parlement européen, contre une moyenne européenne de 41%, alors que le siège du dit Parlement se trouve à Strasbourg. On pourrait ajouter qu'ils ont élu à deux reprises un président, Emmanuel Macron, dont l'engagement en faveur de l'Europe constitue un marqueur fort de son double quinquennat. Et pourtant, l'europessimisme prospère. Alors, ce manque de confiance dans l'Europe masque-t-il un manque de confiance dans la France? S'agit-il d'un mal français? Vous me direz si vous aimez également cette question, mais je voudrais qu'on commence. Bah, je vais vous intégrer tiens, dans ce dernier Eurobaromètre, faire un petit sondage très rapide. Vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste quant à l'avenir de l'Europe? Juste
optimiste.
En un mot, optimiste pour Corinne Lepage, Thomas Gomard.
Optimiste pour l'Europe, moins pour la France.
Brice Couturier.
Pessimiste.
Et Sylvie Kaufmann.
Optimiste.
Bon, on va avoir un petit peu de diversité, donc de débat. Je commence à aller la discussion avec vous, Corinne Lepage. La France, seul pays où les pessimistes quant à l'avenir de l'Europe, donc sont plus nombreux que les optimistes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend et est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète?
Ça ne me surprend malheureusement pas. Est-ce que ça m'inquiète? Oui. Pourquoi est-ce que ça ne me surprend pas? Je pense qu'il y a trois raisons qui peuvent expliquer ça. D'abord, quand vous regardez les sondages qui sont faits, ou les études d'opinion, plutôt, ce n'est pas des sondages, c'est des vraies études qui sont faites sur la manière dont les gens se disent heureux ou pas dans le monde, on est très mal classé. Un pays comme Israël, qui est pourtant en guerre, il est dans les 5 premiers. Nous, on est très loin. Alors qu'il y a des pays où les choses se passent très mal, qui sont beaucoup plus optimistes que nous. Ça, c'est la première chose. Donc, on a un problème, je dirais, fondamental de rapport à l'avenir qui s'explique aussi peut-être par le sentiment, qui est peut-être une réalité, des dégringolades françaises sur le plan économique, sur le plan de l'éducation, sur le plan de tout ce que vous voudrez.
Santé.
Bon, ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui est lié, me semble-t-il, à la manière dont la France voit le vote du Parlement européen. Dans beaucoup de pays européens, on envoie au Parlement les meilleurs, des gens qui comptent, qui ont du poids, etc. Chez nous, c'est la course à l'échalote pour rattraper les gens qui sont barrés du suffrage universel en France, ou qui veulent finir tranquillement leur carrière. Et je ne rappelle pas Madame la ministre de la Culture, lors de son premier mandat au Parlement européen où j'étais, qui nous a tous humiliés en disant parce qu'elle avait mis son téléphone, qu'elle s'en kikinait, c'est pas le mot qu'elle a employé, et que tout ça n'avait strictement aucun intérêt.
Et je vais quand même me rappeler justement, Corinne Lepage, vous avez été eurodéputée, c'était pas pour terminer votre carrière que vous êtes allée à Strasbourg.
Non, mais moi j'aimais ça, on est quelques-uns, hein. Mais beaucoup, non, très franchement, donc ils sont peu présents. S'ajoute à cela le fait que nous sommes peu nombreux au PPE et peu nombreux au SED, qui sont quand même les deux gros partis phares.
Ah, je rappelle, un PPE, Parti Populaire Européen, c'est la droite, où siègent les Républicains français, et SED, c'est Socialistes et Démocrates, voilà, où siège le PS. C'est vrai que c'est pas là qu'on a le plus gros contingent français.
Donc, il y en a pas énormément. Par conséquent, effectivement... je peux pas vous dire que on pèse. Enfin, moi, quand j'y étais, il y a très peu de députés français qui réellement, à l'époque, il y avait Cohn-Bendit qui lui avait du poids, mais il y en avait vraiment pas beaucoup qui pesaient. J'ajoute à cela le fait que ils ne travaillent pas énormément. Or, quand on est député européen, c'est un travail à plein temps, si on veut faire son boulot convenablement. Et puis, il y a un troisième volet qui explique, me semble-t-il, cela. C'est que les Français, au départ, ont vu l'Europe comme la France en grand. Parce qu'au départ, on était 6, puis 15. Et les institutions européennes se sont effectivement beaucoup inspirées du modèle juridique français, par exemple. Bon, au fur et à mesure qu'on a grandi, l'Europe a grandi, la place de la France est devenue de moins en moins importante. Et j'ajoute à cela, cerise sur le gâteau, c'est que chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, c'est la faute de Bruxelles. Toujours. C'est toujours la faute de Bruxelles. Donc, que les gens ne soient pas satisfaits de l'Europe et en aient une mauvaise opinion, c'est franchement pas très surprenant. Je terminerai en disant qu'il y a une chose positive, c'est quand même qu'il y a une vraie demande d'Europe. Oui, dans votre interview, la première, elle disait « c'est pas normal qu'on n'ait pas les mêmes normes partout ». Ça veut dire plus d'Europe. Bon, lorsque on comprend qu'on a besoin d'une défense européenne par rapport à ce qui est en train de se passer, d'une politique étrangère européenne, c'est quelque chose d'important. Donc je pense que les Français ont quand même pris conscience de tout ce que leur apportait l'Europe et ils veulent pas en sortir. Je veux dire qu'il n'y a pas de Frexit chez les Français, ça c'est pas vrai.
Malgré tout, il y a donc un europessimisme qui est important chez les Français. Thomas Gomard, est-ce que c'est parce que, comme l'expliquait Corinne Lepage, la France a peut-être de moins en moins d'influence au sein de l'Union européenne et que... On déplore quelque part, enfin nos compatriotes déplorent le fait que l'Europe ne soit pas davantage française.
Sans doute, hein, je pense qu'il y a un goût de la France pour les antidépresseurs. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit des études d'opinion, où je crois que le pays comme le Bangladesh est plus optimiste que la France, bon, il y a quelque chose qui nous est très, très propre, que j'expliquerai moi par une grande difficulté à se projeter dans l'avenir, parce que nous aimons tellement notre histoire nationale, en fait. Un peu comme les Russes, d'ailleurs. On est tellement attaché à notre histoire nationale qu'on a, à mon avis, beaucoup de mal à la dépasser et à comprendre les nouvelles échelles, au fond, dans lesquelles la mondialisation nous a plongés. Moi, je vois trois raisons principales pour cette difficulté. D'abord, des raisons structurelles. Vous avez eu cette semaine la publication du rapport, ou peut-être déjà antérieur, du rapport d'Enrico Letta sur le marché unique européen, qui rappelle une chose, à mon avis, indispensable.
Alors, Enrico Letta, qui est l'ancien homme politique italien,
voilà, ancien premier ministre italien, et qui vient de remettre un rapport sur le marché unique européen, et qui rappelle qu'en 1985, lorsqu'il a été mis en place ce marché unique, l'Inde et la Chine représentaient 5% de l'économie mondiale. Voilà. C'est un rappel qui montre qu'en 40 ans, on a complètement changé de dimension et que, d'une certaine manière, la difficulté structurelle, c'est que nous avons un rétrécissement de l'Europe en dépit de son élargissement à l'échelle globale. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, je crois qu'il y a des raisons très françaises qui sont les performances économiques de la France au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a un rapprochement des trajectoires de la France avec des pays en termes d'industrialisation, en termes d'endettement avec des pays comme l'Italie et la Grèce. Et donc ça, évidemment, ça crée une très grande difficulté à se refinancer, des écarts qui ont toujours existé, mais qui s'accentuent, et que, à mon avis, les Français comprennent en réalité très bien. Il y a une troisième raison qui est beaucoup plus problématique, c'est une raison politique, c'est-à-dire que je pense qu'il y a ce désamour pour le projet européen s'explique en grande partie par 2005, par la cassure de 2005, et le référendum sur le traité constitutionnel avec le sentiment d'une partie de l'opinion, à mon avis, à juste titre d'ailleurs, d'avoir été volé de leur vote. Et c'est important de rappeler ça, parce que 2005, c'est juste après l'élargissement de 2004, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être aussi dans le message des électeurs français à ce moment-là, indépendamment de la question sur la constitution européenne, sur le projet de constitution européenne, un message qui était de dire, nous, ce qu'on privilégie, c'est l'approfondissement plutôt que l'élargissement. Bon, ben, ce message n'a pas été entendu, et une génération plus tard, on en voit les effets. Et puis, effectivement, un dernier élément, j'en ai annoncé trois, mais j'en rajoute un quatrième dans le prolongement de ce qu'a déjà fort bien décrit Corinne Lepage, c'est, je pense, une attitude en France qui consiste à vouloir faire de l'influence. Le mot influence est désormais au centre du discours du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ou du ministère des Armées, mais une confusion de plus en plus grande entre l'influence et la communication. Or, l'influence, Corinne Lepage l'a rappelé, bah, ça passe par des carrières parlementaires, ça passe par un investissement, c'est un métier, ça se prépare, ça se travaille sur la durée. La communication, c'est beaucoup plus instantané, et puis effectivement, on a l'impression que avec quelques tweets, on est présent dans le débat européen, c'est pas le cas.
Ça manque aussi peut-être d'incarnation, Brice Couturier, justement. Cette Europe qu'on voudrait peut-être un peu plus française, si tant est que ce soit ça, un des éléments d'explication de cet europessimisme français. Quand on avait, par exemple, un Jacques Delors qui présidait la Commission européenne, il y avait peut-être un sentiment d'être davantage impliqué dans l'Europe.
Ben, vous savez bien la fameuse blague de Kissinger, quand je veux appeler l'Europe, quel numéro je dois composer sur le cadran. Moi, je voudrais souligner le fait qu'il y a un paradoxe français pour répondre à votre question initiale, qui est que 38% des électeurs sondés déclarent voter en juin pour un parti d'extrême droite anti-européen, 31% pour la liste Bardella, 5% pour celle de Marion Maréchal et 2,5% pour celle de Dupont-Aignan. Alors que par ailleurs, 73% des Français se disent favorables au projet européen contre 27% qui se déclarent défavorables selon le sondage Ipsos pour l'Institut Montaigne et la Fondation Jean Jaurès. Alors, avec cette nuance, vous me direz, c'est que il y en a effectivement la majorité. Alors quand on demande aux Français le même sondage, si on annonçait demain que l'Union européenne est abandonnée, éprouveriez-vous 47% de grands regrets, 23% seulement un vif soulagement et 30% de l'indifférence. Comment faire coïncider un sondage qui vous dit que près de 40% des gens vont voter pour des partis europhobes, eurosceptiques ou europhobes, et que par ailleurs, une grande majorité de la population est attachée au projet européen?
Et comment vous répondez alors justement à ce paradoxe?
Vous avez la réponse dans le même sondage, qui est diffusé par Le Monde d'ailleurs. Si 19% sont favorables au projet européen tel qu'il est mis en place, 54% sont favorables, mais pas tel qu'il est actuellement mis en place. Donc on voit bien qu'en fait, il y a une insatisfaction à l'égard du projet européen. Je dirais par ailleurs qu'il n'y a pas qu'en France que l'extrême droite arrive en tête. D'après un sondage du think tank European Council on Foreign Relations, dont je vais parler, d'après ce sondage, dans 9 pays d'Union européenne, l'extrême droite arrive en tête, à savoir l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, la France, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne et la Slovaquie. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de désenchantement, de désaveu envers l'Union européenne. Et les auteurs de ce rapport, Krastev et Leonhard, c'est une étude qui est destinée aux dirigeants, aux leaders européens pro-européens, pour leur conseiller la meilleure campagne de communication possible pour essayer de limiter la casse et de garder la majorité. Parce que si on continue comme ça, le groupe central, comme vous le rappelez tout à l'heure, du PPS, du PS et de Renew Europe risque de ne même pas avoir la majorité au Parlement européen. Ça serait l'extrême droite qui serait majoritaire, vous imaginez ça. Alors, il conseille Krastev, vous disiez tout à l'heure, et plusieurs d'entre vous ont dit, il y a des succès européens, il faut les mettre en valeur. Eh bien, Krastev et Leonhard disent non, vous avez tort, parce qu'en fait, chacune des grandes crises qu'a traversé l'Europe depuis 15 ans s'est traduite par la constitution de ce qu'ils appellent une tribu négative qui s'est constituée à l'époque de chaque crise. Ainsi, la crise financière, les subprimes, eh ben, l'opinion dominante en Europe, dans l'UE, c'est que l'Union a mal géré la crise financière. 41% contre 20%. La crise migratoire de 2015, l'immigration, 60% jugent que la gestion par l'UE a été négative contre 17% qu'elle a été positive. Le Covid, qui fait partie quand même des grandes, à mes yeux, d'une des grandes réussites de l'Union européenne. Pareil, opinion négative,
35%, positif 31%. Le changement climatique, 61% trouvent que l'Union a mal agi, 25% sont satisfaits. Et le plus récent, c'est la guerre à Gaza, 35% opinion négative, 10% opinion positive. Non, il y a un désenchantement à l'égard de l'Union européenne, et je disais que je le partage. Vous savez, quand je suis retourné, quand je suis revenu à France Culture en 2002, c'était pour créer une émission sur l'Europe, qui s'appelait Désir d'Europe. Alors, ça s'invente pas, non? Moi, j'étais à la fois pour l'élargissement et pour l'approfondissement. Ensuite, ça s'est appelé Cause commune, parce que je l'ai présenté avec une journaliste allemande, Jacqueline Hénard. Et je remarque qu'à l'époque, le modèle européen était dans le monde entier considéré comme un modèle qui pouvait être adapté localement par beaucoup d'autres. Pourquoi aujourd'hui ce désenchantement? Eh ben, pour des tas de raisons. La première, c'est que l'Europe a un temps de retard dans tous les domaines. Il faut s'adapter. Alors ça, c'est le livre de Thierry Gomard que je conseille.
Bon, on va vous rebaptiser, hein, Thomas. Ça sera plus simple.
Désolé.
Pour la prochaine fois. Très bien. C'est votre faute.
J'assume.
C'est que l'Europe a du mal à s'adapter à un monde où la prise de décision est beaucoup plus rapide. L'Europe, c'est une grande machine. Elle est très lente parce qu'il y a des tas d'institutions. Surtout, l'Europe accuse un appauvrissement relatif. Le décrochage par rapport aux États-Unis est spectaculaire. Songez que le PIB par habitant en Union européenne représente plus que la moitié de celui des Américains et que le PIB de l'Union européenne représente 15% du PIB mondial contre 25% pour les États-Unis. Donc il y a un décrochage qui s'explique par des tas de raisons, par la baisse de le recul de la productivité en Europe et surtout, je voudrais souligner, les coûts de l'énergie qui, en Europe, découragent les investissements, qui font qu'aujourd'hui, les Allemands eux-mêmes délocalisent aux États-Unis parce que l'énergie y est bon marché. 120 milliards d'euros l'année dernière ont été investis par les Allemands aux États-Unis. C'est un drame et ça, c'est la faute du Green Deal.
Avec tout ce que vous venez de nous expliquer, Brice Couturier, on comprend mieux la réponse à ma question initiale. Est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste quant à l'avenir de l'Europe? Vous nous aviez dit que vous étiez pessimiste. Vous avez dit l'inverse, vous, Sylvie oui. Kaufmann. Alors, vous ne partagez pas ce désenchantement à l'égard de l'Union européenne?
Non, je ne dois pas être assez française peut-être, mais... Je ne me plongerai pas dans les causes profondes de ce pessimisme intrinsèque à l'identité française en réalité parce que c'est trop complexe, mais c'est vrai que sur l'Europe il y a à la fois un pessimisme et cet attachement que vous avez tous décrit qui est aussi très réel et tout à fait confirmé par toutes ces études d'opinion. Mais la comparaison que faisait Thomas Gomard tout à l'heure avec le Bangladesh qui est beaucoup plus, les Bangladeshis sont beaucoup plus optimistes que les Français. Il y a une raison aussi pour ça. Et alors le groupe d'études ou de recherche, de réflexion, Le Grand Continent vient de publier son troisième volume là sur l'Europe qui est très intéressant, Portrait d'un monde cassé. Et j'ai trouvé cette phrase dans un article du grand écrivain espagnol Javier Cercas. Il dit nous savons une phrase qui va vous éclairer un petit peu sur ce sujet. Nous savons que l'Europe a été pendant des siècles le centre du monde, mais nous savons aussi qu'elle ne l'est plus. Et il ne se passe pas un jour sans que l'on nous répète que la seule chose qu'il nous reste à faire à nous, Européens, face à la poussée des grandes puissantes émergentes, c'est de nous morfondre comme des nobles ruinés au milieu des ruines de notre glorieux passé. C'est un non-sens, nous ne devons pas succomber à ce pessimisme. Et voilà, et ça, c'est, je pense que c'est une des raisons de notre pessimisme, c'est qu'on passe notre temps à regarder notre passé qui était en effet glorieux, et l'avenir peut aussi l'être, mais d'une manière tout à fait différente. Les Bangladeshis, eux, effectivement, l'avenir ne peut être, je pense, que meilleur pour eux. C'est pour ça qu'ils sont... je suis optimiste, hein Je vois Corinne qui n'est pas tout à fait d'accord avec moi. Oui, ça peut toujours empirer.
Je dirais pourquoi tout à fait.
Mais voilà. Et donc, ce qu'on voit, il y a ce sentiment de déclassement dont les Français parlent en permanence et dont les études d'opinion parlent en permanence. Donc, déclassement qui est un sentiment profond dans une grande partie de la société française et qu'on appelle aussi décrochage au niveau européen, c'est-à-dire l'Europe décroche par rapport aux États-Unis et par rapport aux puissances émergentes, notamment la Chine.
Avec néanmoins, quand même, comme je le rappelais au début, c'est-à-dire un président de la République élu à deux reprises,
oui,
et qui a vraiment affirmé un attachement à l'Union européenne extrêmement fort.
Voilà, et ça colle avec cette autre indication des études d'opinion, qui est que les Français sont attachés à l'Europe. Ils voient quand même leur avenir au sein de l'Europe, et ils voient l'Europe comme un moyen d'améliorer les choses. Mais ce qui se passe, c'est que cette Europe était conçue pour
était conçue dans les années 50 et c'était le 20e siècle et elle a évolué, bien sûr, elle s'est élargie, mais elle reste quand même beaucoup figée dans ce processus de décision et dans son organisation dans ce 20e siècle. Et alors Thomas parlait, citait tout à l'heure Enrico Letta, qui a donc remis cette semaine son rapport sur le marché unique, dont il dit qu'il faut absolument le faire évoluer de manière très profonde, notamment avec cette union des marchés de capitaux dont on parle depuis 10 ans et qu'on n'arrive pas à faire et apparemment qu'on a encore du mal à faire. C'est pas l'union des marchés de capitaux qui va faire rêver les gens, je suis d'accord, même si c'est un outil absolument indispensable. Mais il y a un autre Italien qui a dit des choses cette semaine très intéressantes, c'est Mario Draghi. Et il a
ancien patron de la BCE.
Ancien patron de la BCE, lui aussi ancien Premier ministre. Un Européen très convaincu et je pense un homme politique respecté par la majorité des gens, je crois, en Europe. Et alors, il est lui aussi chargé d'un rapport qu'il va remettre en juin sur la compétitivité de l'Europe. Et dans ce discours qu'il a prononcé en Belgique, mardi, il dit « Un changement radical est nécessaire parce que l'Union européenne est conçue pour le monde d'avant. » C'est-à-dire nos processus de décision, nos modes de financement, notre organisation sont faits pour un monde pré-Covid, pré-Ukraine, pré-ascension de la Chine. Et il faut absolument déflagration au Moyen-Orient, etc. Et il faut ça a été conçu dans un environnement international finalement assez inoffensif, ou qui était basé sur le respect des règles internationales, où il y avait un ordre international. Et cet environnement a explosé. Et donc il faut absolument que l'Europe se mette à jour, se protège ses industries, investisse beaucoup plus dans l'innovation, dans la recherche, trouve un remède à la fragmentation. C'est ça aussi, c'est que il y a des, par exemple, vous prenez l'industrie de la défense. Les pays européens ont des industries de défense formidables, extrêmement performantes, etc. Mais ce marché est totalement fragmenté et ces industries, en fait, s'entretuent à l'exportation vers les pays du Golfe, vers l'Asie, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, où on a la guerre sur notre continent, on est incapable de fournir des munitions à l'Ukraine, alors que nous avons ces industries de défense. Voilà, donc il y a, je pense, une sorte de révolution à faire. Et Draghi dit qu'il faut le faire avec la même ambition que celle de nos pères fondateurs il y a 70 ans. Et ça, je pense que ça pourrait redonner confiance aux Français dans l'Europe.
Sauf que cette révolution vers, disons, alors davantage d'intégration et moins de fragmentation, est-ce qu'elle peut passer avec notamment le nouveau Parlement européen? Alors on va bien sûr voir ce que vont donner ces élections, mais c'est vrai qu'on le répète hein, là aussi régulièrement, c'est-à-dire que les sondages donnent quand même aux partis populistes et souverainistes un net avantage aujourd'hui, Corinne Lepage. Donc cette déflagration, elle risque peut-être d'aller dans un sens qui n'est pas celui que vous évoquez aujourd'hui autour de cette table.
C'est vrai. Il est très probable que le parti central, ça va être le PPE. Dans le prochain Parlement. Parce que vous allez avoir une droite, extrême droite, qui va être très forte, l'ordre de 30% du Parlement. Il faut bien comprendre que, je voudrais juste dire quelque chose sur le mode de fonctionnement du Parlement. Bien sûr, les groupes politiques, c'est très important, mais les nationalités, c'est très important aussi. C'est-à-dire que vous avez au sein de chaque groupe politique une forme de fragmentation en fonction de la nationalité. Et donc, les majorités, elles se construisent, bien sûr, par groupe politique, mais au-delà, en allant chercher dans d'autres groupes que ceux qui sont centraux, les voix qui vont être nécessaires pour faire passer tel ou tel projet. Donc ça, il faut comprendre ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Je reviens à mon point... le PPE va très certainement être renforcé parce que l'Europe est quand même assez à droite, plus qu'à gauche. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il y a une majorité PPE extrême droite? Aujourd'hui, dans les études qui sont faites, c'est non. On est à 46, 47, mais on n'est pas à 50. Donc la majorité, elle reste PPE, SD et Renew, qui va être probablement réduit, comme les écologistes vont être réduits. Mais la majorité, elle est encore là. Si elle est encore là, ça veut dire qu'il y aura une très forte influence du PPE, qui va être probablement le parti le plus important de tout cela. Mais enfin, on peut espérer quand même une évolution positive. Si en revanche, malheureusement, ça tombait de l'autre côté. Là, à mon avis, tout est possible. Ça, c'est un point que je voulais aborder. Deuxièmement, je partage tout à fait ce qu'a dit Sylvie Kaufmann. Il y a une forme de bisounours. Dans la, enfin, je suis désolée du terme, mais c'est un peu ça. Moi, je me souviens de m'être beaucoup battue sur les questions d'application de la concurrence. On a une application des règles de concurrence en Europe qui, à mon avis, est très contre-productive parce qu'elle se fait contre nous. Contre nous. C'est-à-dire que chaque fois qu'on essaye de construire...
Quand vous dites contre nous
les Européens. Les Européens. Chaque fois qu'on essaye de construire quelque chose d'un peu puissant pour répondre aux autres, non, parce que c'est contraire au droit de la concurrence. Je pense qu'il faut qu'on revoie cette conception du droit de la concurrence. Je prends cet exemple-là parce que ça nous a fait faire des bêtises énormes. De même sur l'attitude vis-à-vis de la Chine. Quand, autour de 2010, on a vu l'invasion, si j'ose dire, de panneaux solaires, moi je ne partage pas du tout le point de vue de Brice sur le Green Deal, mais l'invasion des panneaux solaires et des éoliennes qui ont fiché en l'air l'industrie européenne, on n'a pas voulu mettre en place des outils qu'on aurait parfaitement pu mettre en place. Donc oui, on a quelque chose à reconstruire qui s'apparenterait un peu à l'IRA, qu'a fait Biden aux États-Unis, mais je dirais que dans
l'IRA, c'est l'Inflation Reduction Act, un vaste plan d'investissement, notamment pour l'industrie automobile.
Mais c'est un peu ce qu'on a fait avec le Green New Deal, où quand même vous avez des fonds absolument colossaux qui ont été mobilisés tant par la Commission que par la BCE, précisément pour transformer notre modèle industriel. Donc, il y a des choses qui se font, il faut les faire plus vite, et ça repose la question des institutions, sauf qu'on ne peut pas y toucher, en réalité. On ne peut pas toucher aux traités. Donc, on est coincé avec nos traités. C'est ça, en fait, le vrai sujet. Qui va pouvoir remettre en cause les traités pour avoir des règles de majorité au lieu des règles d'unanimité, des choses comme ça, vous voyez ?
Thomas Gomard, pour terminer.
Bon, beaucoup de points négatifs ont été relevés. Il y a un point positif que je voudrais relever pour finir dans la perspective des élections du 9 juin. C'est qu'on a quand même, de mon point de vue, un espace public européen qui se construit. C'est-à-dire qu'on est quand même, les uns et les autres, tous de plus en plus attentifs aux évolutions politiques chez nos partenaires, que ce soit évidemment en Allemagne, en Pologne, tous les énumérer. Et de ce point de vue-là, je pense que cette dimension, en fait, c'est l'apparition d'une sorte de débat public européen qui va dans le sens d'une, je ne sais pas si le terme intégration est le bon, mais à minima d'une meilleure coordination, à mon avis, de nos débats nationaux.
Vous êtes d'accord avec ça, Brice Couturier ?
Un petit sondage pour finir. À la question, que jugez-vous prioritaire ? Réduire les émissions de carbone ou réduire les prix de l'énergie ? Réponse globale des citoyens de l'Union européenne, l'énergie d'abord, 41%. Réduire les émissions de carbone, 25%. Seule la Suède et le Portugal placent la réduction des émissions de carbone avant les prix de l'énergie. C'est pour ça, quand je dis que le Green Deal va permettre à l'extrême droite de faire une poussée fantastique au Parlement européen, je me base sur ces chiffres-là.
Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Brice Couturier, Sylvie Kaufmann, Corinne Lepage et Thomas Thierry Gomard. On reste sur Thomas.
Steve Gardette, à bientôt.
Merci à
et
tous
Brice
les quatre.
Brice Couturier, vous l'avez oublié.
Ah oui, c'est vrai. On ne fait plus tellement la confusion avec vous maintenant, hein, Brice. Émission préparée par Anne-Claire Bazin, comme chaque semaine, réalisée par Luc Jean Reynaud. À la prise de son aujourd'hui, il y avait Sébastien Royer.